En écho à cette confession de foi que nous a offert Élise qui vient d'être baptisée, disons cette conviction à Dieu, tu as une mission pour chacun de nous, elle n'est pas forcément glorieuse, pas forcément illustre, mais elle est en harmonie avec la vérité que tu as placée en nos cœurs. J'ai choisi de prendre dans l'Évangile selon Marc, au chapitre 10, les versets 35 à 40. Les deux fils de Zébédée, Jacques et Jean, s'approchèrent de Jésus et lui dirent « Maître, nous désirons que tu fasses pour nous ce que nous te demanderons. » Jésus leur répondit « Que désirez-vous que je fasse pour vous » « Donne-nous, lui dirent-ils, d'être assis l'un à tes droites et l'autre à tes gauches dans ta gloire. » Jésus leur dit, « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je bois ou être baptisé du baptême dont je suis baptisé ?» Ils lui disent, « Nous le pouvons. » Jésus leur répondit, « Il est vrai que vous boirez la coupe que je bois et que vous serez baptisé du baptême dont je suis baptisé. » Mais pour ce qui est d'être assis à mes droites ou à mes gauches, ce n'est pas à moi de le donner, mais c'est à ceux pour qui cela a été préparé. Les 10, c'est-à-dire les 10 autres apôtres, qui avaient entendu, commencèrent à s'indigner et se mettre en colère contre Jacques et Jean. Jésus les appela, les 10, et leur dit, « Vous savez que ceux qu'on regarde comme les chefs des nations les tyrannisent, et que les grands abusent de leur pouvoir sur elles. Il n'en est pas de même parmi vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous sera votre serviteur, et quiconque veut être le premier parmi vous sera l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie afin d'affranchir une multitude. » Ô Éternel, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur le sentier de toute ma vie. Alors je vous propose de chanter maintenant le cantique 75 dans le petit recueil Louange et prière, Gloire, gloire à l'Éternel, les strophes 1, 4 et 5. Ô Éternel notre Dieu, oui, viens éclairer maintenant chacune et chacun d'entre nous, pour que dans ces pages anciennes que nous avons lues dans la Bible, nous puissions y découvrir quelque chose qui vient de toi, qui nous ouvre, qui nous donne un cœur de chair, qui nous donne des yeux pour voir ceux et celles qui sont autour de nous, qui nous permette aussi de nous voir nous-mêmes en vérité tel que toi, tu nous aimes. Oui, Éternel, donne-nous ton esprit pour que nous puissions aujourd'hui ressusciter. En écoutant ce récit de l'Évangile, volontiers on se mettrait du côté des 10 apôtres en se disant « mais c'est Jacques et Jean, ils sont fous ». Si l'on regarde de près en fait ce qui est raconté ici, on va voir que Jacques et Jean ne sont vraiment pas si mauvais en fait que le pensent les 10 autres. D'abord, le texte nous montre qu'ils prennent courage ensemble et c'est ainsi qu'ils s'approchent de Jésus. Cette mention n'apporte rien du point de vue narratif. On aurait pu commencer simplement en disant qu'il s'adresse à Jésus. La seule raison d'être du fait qu'il y ait marqué qu'il s'approche de Jésus, c'est donc symbolique. S'approcher de sa qualité d'être, de sa pensée théologique, philosophique, de sa qualité de cohérence entre ce qu'il pense et ce qu'il fait, qualité de présence au monde, à ceux qui l'entourent, et puis dans sa relation à Dieu. Et si en sortant de ce culte, nous étions un peu comme ces 2 frères, rapprochés de Jésus, ben ce serait génial. Jacques et Jean, ils reconnaissent en Jésus un maître. Comme eux, nous sommes à l'école de cet homme et nous le sommes avec joie et intérêt. Mais ils vont plus loin en lui demandant d'agir dans leur vie. Au-delà de l'enseignement, c'est la confiance dans une action puissante de Dieu dans leur existence. C'est bien. Et ils le font avec timidité, sachant que ce n'est pas un droit, mais un service qu'ils demandent, une grâce. C'est très bien. Jésus répond, comme souvent, par une question. Que désirez-vous que je fasse pour vous ? Excellente question, maintes fois répétée dans les évangiles. De quoi avons-nous soif, en réalité ? Avons-nous seulement soif de quelque chose ? Alors de quoi rêvent-ils, ces deux frères, d'être assis l'un à la droite et l'autre à la gauche de Jésus dans sa gloire? A priori, ce n'est pas la première chose à laquelle nous aurions pensé si un génie, sortant par exemple d'une lampe que nous sommes en train d'astiquer avec un peu de miroir, nous avait proposé de faire un vœu et un seul. Eh bien, nous aurions tort, parce que cette demande de Jacques et Jean est géniale et généreuse en fait. Contrairement à ce que nous pouvons penser en première lecture, contrairement à ce que les 10 autres apôtres ont apparemment pensé, avec leur cœur tordu par la jalousie peut-être ou quelque autre rancune. D'ailleurs, Jésus ne va pas critiquer ce but qu'ont Jacques et Jean. Il va les aider seulement à travailler sur leur façon de le demander, sur la juste façon d'y arriver. Par contre, Jésus va gronder très sévèrement les 10 autres qui jugent Jacques et Jean. Jésus a horreur de ce type d'attitude. Et c'est à ces 10-là que Jésus va parler de tyrannie, de grandeur tyrannique, pas aux deux frères. Alors nous, aujourd'hui, nous avons des excuses de ne pas bien comprendre ce que Jacques et Jean espèrent, parce que notre langue et notre culture sont un peu distantes de celles de l'époque, bien sûr. Mais pour les 10 apôtres, non, ils devraient avoir compris. Il faut vraiment qu'ils aient l'esprit tordu pour mal juger ainsi leurs copains en plus. Les 10 ont peut-être compris ce que les deux frères espèrent, mais ils sont seulement jaloux de ne pas y avoir pensé le premier peut-être. Ou ils sont peut-être jaloux de la bonne entente des deux frères entre eux. Ça fait un petit clan dans le clan, c'est jamais bien vu, ou de leur proximité avec Jésus peut-être. La jalousie est un incroyable moteur de haine. Elle rend facilement... C'est complètement stupide, au point que souvent le jaloux ne sait même pas que sa jalousie l'a rendu injuste. Mais en tout cas, Jésus ne les abandonne pas, ces 10-là. Jésus les appela, nous dit le texte. Là encore, ce n'est pas utile du point de vue du fil narratif, puisqu'ils étaient déjà présents, puisqu'ils étaient là, qu'ils ont tout entendu. Mais cela marque que Jésus leur parle personnellement, solennellement, à ces 10 hommes. Il ne les accuse pas directement, il leur tend le miroir de sa parole. Il évoque la tyrannie si fréquente dans le monde que dès qu'une once de pouvoir est donnée à quelqu'un, il a tendance à devenir tyrannique. Jésus aide ainsi les 10 à y voir clair, puis sa parole tape dur. Hors de question qu'il en soit ainsi parmi vous. Et v'lan, c'est aux 10 que Jésus dit ça, pas à Jacques et Jean. Ils avaient donc tout faux en critiquant les deux frères d'espérer être assis à la droite et à la gauche de Jésus dans sa gloire, dans toute sa gloire. Alors pour comprendre quel est leur projet, il faut se replonger un instant dans la culture de l'époque de Jésus et dans le sens des idiomes bibliques en fait. Car ce n'est pas tant le sens du mot grec classique qui permet de comprendre de quoi il parle, mais plutôt de ce à quoi ces mots grecs renvoient dans la Bible hébraïque. C'est ce que nous pouvons faire, et quand nous ne le faisons pas, nous pouvons être troublés par le sens premier qu'offrent nos traductions. Alors nous pouvons commencer par le sens de ce que c'est que la gloire. Cela n'a rien à voir avec les honneurs de ce monde, ce n'est pas un titre de duc ni un trône en bois doré et velours rouge qui leur serait réservé dans la vie future. Nous ne sommes pas dans la légende du roi Arthur. D'ailleurs, il ne parle pas au futur, mais au présent. Dans la Bible, la gloire de Dieu est une expression idiomatique, La gloire de Dieu, c'est de libérer ceux qu'il aime, c'est de les arracher aux griffes du tyran, le pharaon qui les opprime, de les arracher aussi à leur propre chaîne intérieure pour les mettre en route. Et c'est ce que Jésus rappelle ici aux 10 qui n'ont rien compris, en particulier quand il parle de libération de l'esclavage. La gloire, ce n'est donc pas ici la course aux honneurs, mais c'est rendre un service efficace, c'est libérer les autres. La gloire, c'est avoir un service qui a du poids sur le cours de l'histoire, même modeste. En l'occurrence, c'est un service qui donne la vie, qui embellit la vie de ceux qu'on aime, qui ressuscite la vie et qui la rend belle, évidemment, quand il s'agit de Dieu et de Christ, puisque c'est leur façon d'être, c'est ainsi qu'ils sont. Par conséquent, quand Jacques et Jean espèrent être associés à la gloire du Christ, c'est le désir d'entrer dans son équipe et de se rendre utile à sa façon. Pour eux, qui voient vivre Jésus, c'est plus dans son style d'être au service que d'être à la chasse, aux honneurs et à la démagogie, bien sûr. Ça ne devrait tromper personne. Les deux frères, donc, ils espèrent être assis à sa droite et à sa gauche. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire ? Là encore, c'est clair dans le contexte de la Bible, peut-être parce que nous ne savons plus comment étaient les combattants de l'époque. Un combattant de l'époque, il tenait une épée à sa main droite et à son bras gauche, il avait un bouclier. Alors c'est vrai que dans la vie, il nous faut à la fois de l'énergie pour avancer et puis de l'énergie pour encaisser les coups. C'est ô combien vrai pour Jésus, ben c'est aussi vrai pour Dieu, bien sûr. Et il encaisse dur, Dieu. Il est aux côtés de ceux qui souffrent pour les soutenir face aux coups, donc là aussi, il encaisse. Mais par ailleurs, Dieu ne se lasse pas d'ensemencer le monde et de plein de bonnes choses nouvelles pour nous libérer et pour nous faire vivre. Jacques et Jean se portent donc volontaires pour entrer au service actif. Mais si tout combattant porte à la fois l'épée et le bouclier, telle ou telle personne, Jacques ou Jean, se sent peut-être plus porté vers la compassion et le soin de ceux qui souffrent, et il se voit donc plutôt à gauche. Bon, j'aurais dû dire plutôt qu'il se voit dans l'équipe bouclier pour que ça ne passe pas pour de la propagande politique en cette période un peu compliquée. L'autre, peut-être, se voit plus dans l'action, à la manière de Jésus, donc dans la mission vers les marges, vers les païens, vers les intégristes, vers les pas assez religieux, les trop religieux, les étrangers, les personnes de mauvaise vie, les cabossés de la vie. Et cette équipe, ben, c'est celle de la droite. Avec l'image classique dans l'épée, dans la Bible, de l'épée de la parole de Dieu, de l'épée de la parole qui tranche, qui discerne, qui fait la différence pour créer, en séparant la lumière des ténèbres, l'amour de la haine, la vie de la mort, la liberté du grand n'importe quoi. Et donc ces places à droite et à gauche du Christ ne sont pas comme un jeu de chaises musicales avec seulement un trône de chaque côté pour une seule personne de chaque côté. D'abord parce que gauche et droite ici sont au pluriel, les gauches et les droites. Comme pour bien marquer qu'il y a une multitude de places et une multitude de façons de prendre place dans ces équipes de compassion et de création. Mais de toute façon, la demeure du Christ est une façon d'être. Ce n'est pas comme une pièce qui ne pourrait contenir qu'un nombre limité de personnes. C'est comme de demeurer en paix, si vous voulez. Il y a de la place pour tout le monde dans la paix là-dedans, car la paix s'étend à mesure que d'autres rejoignent dans la paix. Et on se sent même d'autant moins à l'étroit dans la paix que nous sommes nombreux à y entrer, à y être. Les dix n'ont donc rien compris en étant jaloux de l'ambition des deux frères. Alors est-ce arrogant d'espérer être à droite ou à gauche de Jésus dans sa gloire ? C'est ambitieux, certes, mais non, ce n'est pas arrogant, c'est tout le contraire. Car tout dans les paroles de Jésus nous dit d'abord que nous en sommes dignes de cette ambition, chacune et chacun. Cela se retrouve encore une fois dans ce que Jésus dit ici. Il nous dit « Le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie afin d'affranchir une multitude. » De qui parle Jésus quand il parle de Fils de l'homme, qui est donc fait pour servir efficacement, donc pour entrer dans cette gloire à la suite de Dieu, de libérer les gens ? Fils de l'homme, ça parle de lui, mais ça parle tout autant de chacune et de chacun de nous. Mais là encore, il faut regarder ce que dit la Bible pour le savoir. Fils de l'homme, c'est littéralement en hébreu un descendant d'Adam, un terrien. Et si quelquefois, dans certains prophètes tardifs de l'Ancien Testament, cette expression « fils de l'homme » sert à désigner le Messie, dans nos traductions, il y a alors un F majuscule et un H majuscule peut-être, La plupart du temps, dans la Bible, cette expression « fils de l'homme », ça veut simplement dire « quelqu'un comme vous et moi ». Voilà, un humain de humus, la terre. Nous sommes donc, selon Jésus, nous tous et nous toutes, et Jésus aussi, avec Jésus, dans son équipe, appelés à servir et à donner notre avis, notre vie pour d'autres afin de les libérer de l'esclavage. Alors dans nos Bibles, il y a marqué souvent dans nos traductions « donner sa vie en rançon ». Aïe, décidément ce texte est plein de pièges pour nous alors qu'il était si clair en fait dans la bouche de Jésus quand il parlait en langue hébraïque à ses disciples. Dans nos traductions donc, il est souvent marqué « il doit donner sa vie en rançon pour une multitude ». Cette traduction, elle est à l'origine d'un des plus grands malentendus sur que le Christ nous a apporté comme s'il avait, avec sa mort, payé pour nous la note, pour nos immenses péchés. Payé à Dieu ou payé au diable, on n'en sait rien, mais qu'importe. Cette traduction du mot grec « lutron » ou du verbe « lutro-o », traduction en « payer une rançon », serait exacte en grec classique peut-être, mais pas en grec biblique. Car dans la Bible, dans les Septante, ce verbe veut simplement dire libérer un esclave sans qu'il soit forcément question de rançon. Ça peut être une façon de libérer un esclave, mais il y a mille autres façons. Et en particulier, ce verbe et ce mot sont utilisés pour l'action de Dieu qui est célébrée à Pâques. Quand il libère les Hébreux hors d'Égypte, il n'a pas été question de rançon. Dieu les a fait s'échapper, il les a libérés du griffe du Pharaon, il les a nourris, mis en chemin vers la vie en abondance. Et ça, cette façon d'être est très précieuse, très inspirante. Il est si facile d'aliéner quelqu'un en lui rendant service. Jésus, lui, nous appelle à servir les autres en les libérant. Et en lui, nous pouvons donc essayer de permettre à l'autre de s'épanouir finalement, d'être un lui-même plus en forme avec ce qu'il peut apporter au monde alors d'authentique, de personnel. Alors pour faire cela, oui, ça demande de se décarcasser un peu des fois. Peut-être pas de donner sa vie au sens de donner sa mort, car alors nous ne serons pas tellement avancés nous-mêmes. C'est un peu ennuyeux d'être mort quand même. Et le monde non plus ne sera pas tellement avancé de nous voir mourir parce qu'il sera privé de nous et de ce que nous pouvons encore apporter. Mais nous pouvons intégrer dans notre vie le sens du service de l'autre, de la libération de l'autre, de l'émancipation de l'autre. Donc Jacques et Jean ont parfaitement raison dans leur soif de servir utilement Dieu dans cette Pâque nouvelle qui s'ouvre en Christ. Ce que Jésus les amène à reconsidérer, c'est leur façon d'atteindre ce but. Et en particulier le fait qu'ils demandent à Jésus de le faire pour eux. Car alors cela reviendrait à faire du Christ un tyran qui façonne et manipule ses hommes comme des pions. Mais de toute façon, même si Jésus voulait le faire, il ne pourrait pas faire ce qu'il demande, parce que c'est à eux-mêmes de le faire. Ce qu'il demande, c'est aussi ridicule que de dire à quelqu'un « Excuse-moi, est-ce que tu peux me rendre service ?»« Ben, volontiers, oui, mais quoi ?»« Eh bien voilà, j'ai soif, est-ce que tu voudrais bien aller boire de l'eau à ma place ?» Jésus leur répond évidemment qu'il ne peut pas boire à leur place pour qu'ils aient moins soif, ni prendre une douche à leur place pour qu'ils soient propres. Donc leur but est bon, ils ont bien saisi cette juste ambition que Dieu a pour eux en particulier. Jésus nous montre que c'est une bonne chose d'aimer ainsi un bon but, mais que ce que l'on peut demander à Dieu, ce n'est pas le but, mais c'est le chemin finalement. On peut espérer la paix par exemple, on peut l'aimer, c'est excellent, mais on ne peut pas demander à Dieu la paix. Ce serait comme de lui demander de boire à notre place pour calmer notre soif. Donc oui, il est bon d'aimer la paix, alors demandons-en à Dieu son chemin pour nous. Demandons-lui la sagesse et la force d'avancer. Les disciples veulent enfin être au service actif des autres, ils en ont soif. C'est très bien. Mais alors pourquoi est-ce qu'ils ne boivent pas à la source s'ils ont soif? De ça aussi, Jésus montre le chemin. Il suffit de boire à la coupe qu'il boit et être baptisé du baptême dont il est, lui, baptisé. Alors bon, désolé, en ce point essentiel aussi, décidément, bien des traductions sont fautives. Mais là, ce n'est pas à cause de l'hébreu ou du grec, en fait. C'est juste la tradition qui romance furieusement le texte, toujours à cause de cette histoire épouvantable de rançon qui aurait été versée par Jésus sur la croix ou je ne sais quoi. Dans les traductions anciennes, ça a été corrigé dans des traductions plus récentes, heureusement. Il est dit que Jésus parle de la coupe qu'il va boire et du baptême dont il va être baptisé, sous-entendu la coupe de sa mort sur la croix et le baptême de sa plongée dans la mort. Mais le texte de l'Évangile est au présent. Jésus parle d'une coupe qu'il boit quotidiennement et d'une douche qu'il reçoit dans la vie quotidienne. Il ne s'agit donc ni du baptême de Jean-Baptiste dans le passé, ni de la plongée dramatique dans le martyre qui va malheureusement lui arriver. Jacques et Jean, d'ailleurs, savent très bien de quoi parle Jésus. Ils le comprennent très bien. Et puis, au moment où a été écrit l'évangile de Marc, Jean était sans doute dans une forme olympique, puisque on sait par Irénée de Lyon, qui vivait au milieu du IIe siècle, que Jean serait mort à Éphèse vers l'an 101. Donc imaginez, au moment de la rédaction de l'évangile selon Marc, il avait encore 40 ans de vie devant lui, ou 50 ans, ou 60 ans, donc ça allait bien quand même, je pense. Mais s'abreuver là où Jésus boit, eux qu'ils voyaient vivre au jour le jour, ils savent de quoi ils parlent en fait. Comment est-ce que Jésus se ressource ? En fait, c'est tout simple. Il se retire régulièrement dans la solitude un moment pour prier et réfléchir devant Dieu, avec Dieu, grâce à Dieu. Et puis il discute aussi avec des gens de toutes sortes, il interroge, il regarde, il rencontre, il mange avec eux. Voilà ce que c'est que boire comme Jésus boit à la source, à la coupe. Et être baptisé du baptême dont il est baptisé dans le quotidien, dans l'ordinaire de ses jours, qu'est-ce que cela peut être ? Ce n'est pas une tébila, ce bain de purification dans lequel on se plonge pour se purifier moralement, spirituellement, ou pour guérir comme Naaman le lépreux dans l'histoire du livre des Rois. Car alors Jésus nous inviterait à nous plonger et non à être plongé. Ce qui nous baigne ainsi, c'est en fait la grâce de Dieu, car effectivement, quand il y a un passif comme ça, en général dans la Bible, c'est que Dieu en est le sujet. Et être plongé dedans, c'est sentir son amour, sentir sa grâce, sentir son pardon. Et de cela aussi, nous avons le pouvoir, donc, d'être ainsi baptisés. C'est en prendre conscience, le méditer, et c'est extraordinairement libérant, émancipant. Pour le reste, nous dit Jésus, en ce qui concerne notre place dans le dispositif, dans l'équipe, à gauche, à droite, cela n'est pas à demander, puisque Dieu compte évidemment sur chacun, évidemment pour Dieu, dans son amour. Amen.